Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
RMC les grandes gueules.
À vous de choisir.
Excellent. Tu dis que c'est Alain Chanfort.
Non, c'est pas Alain Chanfort.
Ah, ça se retrouve.
J'ai posé une bonne question.
Je crois que c'est années 80 en tout cas.
Je pensais que c'était Alain Chanfort. Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout, je m'envoie en l'air.
Chanson d'élégance, élégance.
Ouais, je m'envoie en l'air, c'est assez super. Folie légère.
Ils ont fait que ça, hein.
C'est 1980.
Ouais.
Il faudrait rouvrir des boîtes.
1982.
Voilà. Il y avait un club 79 aux Champs-Élysées à l'époque qui faisait ça. C'était vraiment. Et maintenant, il n'y a plus de ça. Moi, je rêverais de
retourner en boîte.
Que je suis vieux.
Voilà.
Avec la montre arrêtée, je ne sais même pas l'heure qu'il est. Téléphone a sonné, je me suis pas réveillé, direction salle de bain.
Le quart d'heure américain, toi il te l'annonce.
Faut expliquer ce que c'était que le quart d'heure américain.
Le DJ qui parlait un peu.
Ah ouais, c'était
les filles qui invitaient les garçons.
Voilà, t'avais un quart d'heure de slow. Parce qu'on a perdu le slow.
Mais maintenant, le quart d'heure américain, il faut faire un contrat juridique. Je m'appelle Antoine Diers. J'aurais le droit de lui mettre la main là, sur l'épaule, de lui parler dans l'oreille, mais uniquement sur la hanche.
Moi je rêve.
Et si je l'embrasse,
le retour de la boîte comme ça, un peu à l'ancienne, tu vois. Où t'as le DJ qui parle parfois un petit peu, où t'as le quart d'heure américain, où t'as encore le serveur qui arrive, tu sais, qui va te mettre, quand tu prends une bouteille, il va bien te servir, toi tu te fais beau.
Tu es déjà habillé pour aller dans cette
boîte. C'est un moment, tu vois, où le téléphone portable interdit, tu te prends pas en photo, pas de conneries comme ça. Tu te lâches, tu fais ce que tu veux. Et moi je rêve de ça, parce que maintenant c'est fini, maintenant c'est électro, c'est la bière à la fin, comme ça, là, ils tous dans le même sens, ils sont tous à se prendre en photo.
Comment tu fais l'électro, vas-y.
Non, mais tu sais, ils sont tous.
Ouais, c'est vrai,
mais sur l'électro minimaliste, machin, c'est un truc un peu. C'était trop technique, moi.
Mais là, c'est pas des Technival, là.
Non, mais même des boîtes à Paris, c'est vachement.
Moi, je suis pas tellement allé en boîte. Ma génération, bande de potes, et ce que tu décris, Thomas, ça a l'air intéressant, ça a l'air sympa. Mais moi, ce que j'ai connu, c'est les bouteilles trop chères, les ambiances un peu désagréables, la mauvaise musique. Donc vraiment, je suis pas du tout allé en boîte. J'ai largement préféré les soirées chez les potes, les bars posés avec de la bonne musique, années 80. Le truc plus proche de ce que tu décris.
Les boîtes, elles. Péréquine,
bah, les boîtes, elles ferment les unes après les autres. C'est triste. Parce que, il y a une époque à Paris, je veux dire, que t'es de l'argent ou pas, en fait. Parce qu'après, c'est ce que tu. Paris, t'avais tous les soirs une soirée.
Et écoute. Pour toi, ça.
Voilà, maintenant, c'est...
C'est ça maintenant.
Attends, c'est ça. Ouais. C'est des trucs comme ça. Voilà.
Ah, mais c'est presque bon. Il y a des trucs bien pires en fait.
T'as raison, parce qu'il y avait, tu sais, tu te souviens, pardon, hein, on prend encore une minute, mais il y avait le mythe de certaines boîtes de nuit. C'est-à-dire, tu avais même en ville, tu avais le classement, tu avais la boîte.
Bah,
tu avais du mal à rentrer, puis t'avais la boîte un peu deuxième zone, troisième zone.
On faisait beaucoup jeter des boîtes. Quand tu étais un garçon, notamment à Paris, moi, quand j'avais 17-18, si t'arrivais non accompagné uniquement avec tes copains, tu te faisais jeter des grandes boîtes comme le Palace,
les Bains d'Ouge,
le bus Palladium qui est fermé, fini définitivement. Mais c'est le bus Palladium, c'est mythique. Et c'est vrai que tu passais beaucoup de temps dehors en fait.
Mais t'as vu quand tu rentrais?
Parce que
t'étais le roi du pétrole. Et ça aussi, parce que
t'étais fier.
Donc tu mettais plein de stratégies, tu perdais un temps.
Justement, les garçons. Souvent, ils me demandaient parce que il fallait une fille. Et comme moi, j'avais pas où dormir, je dormais dans la boîte de nuit.
J'ai jamais compris le principe de venir accompagner.
Ça existe toujours en 2023.
En boîte de nuit pour faire des rencontres. Donc célibataire.
Mais tu sais que même encore aujourd'hui, il y a plein de jeunes femmes sans domicile fixe. Lundi au jeudi, elles dorment dans les boîtes de nuit. Elles accompagnent un mec. Et puis après, voilà.
Ouais.
Bon, bah écoutez, c'était notre petit quart d'heure nostalgie sur les boîtes de nuit.
C'était en fait, je veux dire, tu pouvais ne pas avoir d'argent, mais tu concentrais peut-être ton argent sur ta soirée où tu te faisais beau, où tu parlais avec des filles dans la queue. À l'époque, tu pouvais pas. Est-ce que tu veux rentrer avec moi et tout? Ah oui, on va prendre une table. Ah ouais, tu faisais un truc comme ça, tu t'organisais. Et là, tu étais le roi du monde pendant quelques heures.
Mais Jean-Marc Jancovici vient de dire deux boîtes de nuit par vie.
Voilà. Non, mais moi, je suis triste que je sois fini tout ça.
Merci Jean-Marc.
Voilà, bref.
Mais c'était bien de reparler de tout ça. Ça me rappelle le Jackio, la siesta sur le bord de mer. Une soirée Playboy à la siesta.
Alors, on va pas savoir.
Sponsorisé par Playboy. Mon bon Thomas. Bon, écoutez. Alors, des congés pour vie stressante, ça vient en fait des États-Unis. C'est une tendance qui arrive dans les grands groupes américains. De plus en plus d'entreprises qui prennent en compte en fait la santé mentale de leurs employés et disent aujourd'hui, lorsqu'ils ont des événements extérieurs dans leur vie, on doit pouvoir les prendre en compte. Et à ce moment-là, leur accorder des congés pour stress. Voilà aujourd'hui ce qui se met en place, Olivier.
Oui, alors ça vient toujours aux États-Unis. En général, quand ça commence aux États-Unis, ça va arriver chez nous.
Pour le meilleur et pour le pire.
Tous les phénomènes arrivent chez nous à un moment donné. C'est vrai, pour le meilleur, pour le pire, tu as raison, Antoine. Et donc là, en fait, ce sont les entreprises qui se sont aperçues que depuis le Covid, il y a un problème avec la santé mentale de leurs employés. Et donc, pour préserver cette santé mentale, mise à mal, nous dit-on, par la pandémie, on fait preuve de flexibilité. Et si l'employé veut un congé pour déstresser, on lui accorde. C'est une politique qui est assez généreuse, qui a aussi pour objectif de conserver et d'attirer les meilleurs salariés, parce qu'aux États-Unis comme en France, on a du mal à embaucher. Puis il y en a qui, l'employé arrive le lundi, le mardi, il en a marre, il se barre. Mais là, pour les garder, on leur propose ces congés anti-stress, parce que la vie deviendrait beaucoup plus stressante qu'avant. Et il y aurait quand même eu un avant et un après Covid. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut mettre en place, en France, en plus des RTT, des vacances qu'on a, des jours fériés, des congés anti-stress?
Moi, je suis assez favorable. Et en fait, j'ai managé des petites équipes dans les cabinets, dans les mairies. Et un bon manager le fait déjà. Un bon manager dit « Waouh, on a eu une super grosse semaine, t'as un problème familial, écoute, pars tôt ou viens pas demain. » Ça se fait déjà dans les petites équipes. Je crois que la difficulté, c'est peut-être dans les grandes boîtes.
Oui.
Et la difficulté, c'est surtout la façon dont nous, Français, on abuserait de ce système. Et donc, moi, j'y suis totalement favorable, tout en me disant, il y en a toujours quelques-uns qui vont en prendre le maximum et qui vont gâcher le truc.
Mais tu dis que ça peut être utile.
Franchement, oui. En dehors des congés ou des RTT, parce que ça se rajoute, en fait.
C'est ça.
Un collaborateur, un collègue, il est bon quand il est en forme, dans sa tête, dans sa famille, etc. Et j'ai toujours préféré dire, viens pas demain, écoute, gère ton problème, on se débrouillera avec le reste de l'équipe. C'était pas formalisé, mais c'est ça, c'est une espèce de congé stress.
Mais ça, c'est plus facile quand c'est des petites boîtes, des petites équipes.
Je te l'accorde.
Le manager est en contact direct. Dans les grandes boîtes, où il y a des chefs, des sous-chefs, et donc il y a des process aussi un peu plus compliqués, à mon avis, c'est plus
facile. Je vois la limite.
Thomas, Elina,
il y a des événements qui, enfin, moi, je me souviens toujours de ce qui m'avait marqué, ce qu'avait dit notre grande gueule Mourad Boudjelal, grand entrepreneur à succès, multi-entrepreneur à succès. Il avait dit que quand il y avait, par exemple, des décès dans certaines familles qui peuvent amener à des vies stressantes, lui, il laissait des congés. Parfois, il disait, tu reviens quand tu es en forme. Et que les gens, finalement, ils trouvaient ça très sympathique qu'on leur laisse ce délai, qu'un patron comprenne cette peine, plutôt que de dire, t'as un jour et tu reviens après demain. Et que quand ils revenaient, ils travaillaient hyper bien et ils rattrapaient souvent ce qu'ils avaient perdu. Donc, c'est intéressant, moi, je pense, d'être un peu plus flexible. Parce que finalement, tu sens un peu plus souple. À l'écoute. Et puis moi, j'ai une anecdote. Une fois, j'avais été dans un restaurant comme ça. Dans un restaurant que je connaissais.
Juste avant d'aller en boîte.
Il y avait une serveuse qui était extrêmement désagréable, mais très désagréable, qui te servait les trucs comme ça. Et alors, tu viens passer un bon moment comme ça, et toi, tout de suite, ça te contracte. Et en partant, j'ai dit franchement, qu'est-ce qu'elle a ce... Et là, qu'est-ce qu'il me dit le patron? Il me fait, tu sais, elle est stressée en ce moment. Donc j'ai dit, comment ça, elle est stressée? Qu'elle rentre chez elle, se reposer, parce que là, finalement, elle gâche la vie de tout le monde. Et elle gâche même la vie, je pense, du restaurant, parce que moi, j'y suis plus jamais retourné.
Elle fait pas du bon travail.
Elle fait pas du bon travail. Donc, faut pas. Et moi, ce que j'apprends même à mes étudiants, vous savez, moi, mes étudiants, quand je les ai en études supérieures, là, je leur dis, le monde du travail, tu as des problèmes familiaux, etc. Moi, parfois, je vais venir vous donner cours. Mon fils a peut-être été malade, il a vomi toute la nuit. J'arrive comme si de rien n'était. Parce que
c'est ce qu'on m'a toujours dit. Tes problèmes perso, tu les laisses à la porte du bureau.
Et moi, je dis à mes étudiants, vous avez fait la fête la veille, vous avez des problèmes dans votre famille. Si vous rentrez, que vous dormez dans cours, vous dormez devant moi, vous me manquez de respect. Vous prenez deux Red Bull, vous mettez de l'eau sur le visage et vous êtes droit devant moi et vous m'écoutez, c'est le respect ça. Ou vous venez pas en cours. Vous voyez, c'est ça le truc. Mais il faut apprendre aux gens. Et en France, je pense que ce que je constate, c'est qu'il y a trop de mélange entre la vie personnelle et le travail. Donc tu as le droit d'être stressé parce que tu as des problèmes, donc tu as le droit de le faire subir à l'autre. Non, c'est pas comme ça la vie.
Oui, mais qu'est-ce qui devient prioritaire alors? C'est ton bien-être? Comment tu te sens? Ou c'est ton travail qui devient prioritaire? Parce que là, plus ça va, plus c'est... Alors, je comprends, la santé du salarié, faut l'aménager, faut la protéger, faut qu'il soit performant, faut qu'il soit productif. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'inversion, si tu veux, et qui sera peut-être un peu préjudiciable, d'ailleurs, à l'entreprise. Parce que tous les mois, tu vas dire, écoutez, j'ai tel problème, je me sens pas bien, je suis ci, je suis ça, je pose une journée. Ouais,
Le risque, c'est l'abus. Le risque, c'est l'abus.
Tu fais confiance au salarié dans ces cas-là?
Il faut.
Moi, de façon, dès que ça concerne la santé mentale, pour moi, c'est primordial. Et c'est vrai qu'on est dans une vie de plus en plus stressante. Avant, sans le numérique, une fois que t'étais chez toi, t'étais chez toi. Moi, je veux dire, des fois, à 23h, je suis encore en train de répondre. Ouais. Et même dans le métro, donc, il y a quelque chose qui est plus stressant. Et n'oublions pas quand même, enfin, j'imagine que vous lisez la presse autant que moi. Mais dans le monde de l'entreprise, il y a quand même beaucoup de burn-out. Je suis désolé, toi tu dis abus, tout de suite tu penses à abus. Quand il y a quelqu'un de ta famille qui...
Je t'ai surtout dit que je le faisais volontairement.
Mais quand quelqu'un décède dans ta famille, je crois pas que tu vois, t'as envie d'abuser.
Il y en a forcément qui en abusent.
Non mais tu as pas inventé un décès dans ta famille.
Le nombre de grand-mères décédées, c'est pas déjà la quatrième grand-mère en une semaine.
Non mais attends, par contre, moi je connais des boîtes. Je connais des boîtes, alors pour le coup c'est des très très grosses boîtes. Ils organisent des week-ends, par exemple un week-end dans la montagne, parachute, tu vois, un exemple. Et pendant la journée, ils ont des pauses, mais c'est génial, moi j'adore. Sauf que moi je suis juste intervenant, donc pendant les pauses, ils peuvent, aller à la piscine, ils peuvent... faire du ping-pong. Enfin, voilà, il y a plein de sports possibles.
Mais justement, à un moment donné.
Eh oui, mais ça peut faire du bien.
Oui, mais je rebondis là-dessus. On attend toujours que ce soit l'autre qui organise ça. Pardon. Je pense qu'on peut tous se prendre un peu en main, essayer de gérer son stress, essayer peut-être de moins de se mettre de la pression. On n'est pas tous obligés d'être sur les réseaux sociaux, etc. On n'est pas tous obligés de se rajouter du stress dans une vie qui l'est déjà naturellement.
Non, mais...
Moi, je m'y a toujours l'idée que c'est la faute de l'employeur ou c'est la faute de machin, etc. On est tous aussi responsables de sa vie, de l'environnement dans lequel on vit aussi. On peut faire des choix.
Okay.
Moi, je ne suis pas convaincu que ce soit plus stressant aujourd'hui qu'il y a 50 ans.
Avec moi.
Je ne suis pas sûr que nos grands-parents avaient une vie moins stressante que la nôtre.
Le travail, plus besoin d'ailleurs.
Le travail était plus dur, on avait moins de congés. On ne se posait pas les questions sur le sens du travail parce que souvent on n'avait pas le choix. Et maintenant, en fait, on est beaucoup tourné sur nous-mêmes, sur notre bien-être, sur notre machin, etc. Je pense qu'on est moins résistant peut-être au stress. Et peut-être que c'est ça qu'il faudrait être plus fragile. Et peut-être qu'il faut réfléchir à ça. Pourquoi sommes-nous devenus tous plus fragiles? Comme on dit, avant le Covid, après le Covid, on a l'impression que le monde avait complètement basculé.
Mais Olivier, je ne te parle pas des réseaux sociaux. Non. Tu sais, vous savez très bien que moi, j'ai plusieurs employeurs. Je suis désolé, ils m'appellent n'importe quand, ils me contactent à n'importe quand sur mes mails.
Ça, c'est nouveau, ça existe.
Ouais, c'est pas dommage.
Avant, tu quittais le boulot, c'était terminé.
Voilà,
aujourd'hui,
si tu veux, on est en train
de certains managers. Ça, je suis d'accord avec toi. Et ça, peut-être qu'il faut, le dénoncer, ça. Ouais.
On est en train, de transformer le salarié en petite chose fragile.
Non, moi je suis solide.
Si. Comment allez-vous? Même par peur de ce que toi tu risques derrière. Comment allez-vous? Comment vous vous sentez? Vous êtes sûr? Tout va bien? Pas de problème chez vous?
Bon courage.
Asseyez-vous là.
Alain.
Bon courage.
Alain.
À demain. Prenez soin. Tu sais, aussi.
Alain.
Prends soin de toi.
Alain.
À demain. Aussi Dieu le
Alain.
Veut. Putain, ça
Alain,
va.
Alain, le burn-out, c'est quand même un nouveau truc qui arrive dans notre société. Ça existe.
Oui, bien sûr.
Ben, si ces personnes ont fait des burn-out, c'est qu'à un moment donné, ça a sauté dans leur tête, quoi. Ils en pouvaient plus.
Le congé pour vie stressante. Non, imagine, la femme est enceinte, le mari dit, oh là là, Ma femme est enceinte, je suis stressé là. J'espère que ça va bien se passer. Mmh. Tu vas demander tous les 5 jours de rester chez toi parce que t'es stressé, parce que t'es malade.
Parfois,
c'est autre chose.
Non, mais t'as
ça, c'est déjà prévu par le code du travail, par ton employeur. Tu peux t'arranger.
Ouais, bien sûr.
Le télétravail le permet aussi aujourd'hui.
Moi, je pense que le télétravail rend le travail plus stressant. Contrairement à ce qu'on raconte, on nous explique que c'est bien, on est à la maison, etc. Il y a plus de coupure. C'est-à-dire que t'es chez toi toute la journée. Il y a plus de coupure entre ta vie privée, ta vie professionnelle. Effectivement, ton manager, il prend plus de liberté à te solliciter à n'importe quelle heure, puisque de toute façon t'es chez toi, etc. Moi, je trouve que peut-être qu'avant, effectivement, nos parents, quand ils quittaient le travail, ils prenaient la voiture, prenaient la petite mallette, ils rentraient à la maison et c'était terminé. Ouais. Ils n'entendaient plus du tout parler de leur travail jusqu'au lendemain. Et aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'on mélange vie privée avec le télétravail et vie sociale. Parce qu'effectivement, on reçoit des mails tout le temps, il faut répondre tout de suite. Et voilà, peut-être que c'est ça qui a changé aussi.
Ce qui a changé, c'est la judiciarisation de la société. Parce qu'aux États-Unis, nombre d'entreprises qui se sont fait attaquer en justice aussi par leurs salariés, qui rendent la boîte responsable de leur cancer, leur mal-être, leur dépression, leur tentative de suicide, leur
déclaration. Alain, je suis désolé.
Donc c'est aussi pour ça qu'elle prévoit des congé, tu vois, depuis le Covid, la grande démission.
Alain, je suis désolé, mais le scandale de l'amiante en France, il existe.
Oui,
faut porter plainte.
Oui, non, mais bien entendu.
On est d'accord.
Aux États-Unis,
c'est mis en danger, alors que c'était interdit en plus.
Ils font un peu plus que 35 heures, à mon avis. Donc, effectivement, ils sont peut-être plus stressés.
Ah oui, alors il faut préciser que les Américains ont quand même beaucoup moins de congés que nous.
Voilà, ils ont moins de congés.
Ils ont un rapport au travail qui n'est pas le nôtre, pas le même que nous.
Ils ont deux semaines de moins en moyenne, ouais.
Ils les prennent pas tous leurs congés.
Ils prennent pas tous, ouais. Parce que c'est progressif.
Ouais.
Au début, nous, on a une année, on a rien, mais très vite, on a 5 semaines. Eux, ils ont une semaine, puis une semaine en plus, puis une semaine en plus. Donc,
on en a parlé pendant un quart d'heure, et on vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Congé pour vie stressante, c'est ce qui se met en place aux États-Unis. Est-ce que la France doit suivre?
Non,
c'est mitigé aussi.
Non, 57,6. Mais peut-être parce qu'on sait qu'on a déjà suffisamment de congés et RTT aujourd'hui aussi dans le pays.
Peut-être.